Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Durant le mois d'août, j'ai parlé du vice à travers la malfaçon, la méchanceté, l'esclavage, le péché, l'enfermement dans un cercle infernal. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'inverse, à savoir de la perfection et de l'obéissance à la perfection. La sagesse du monde entier, depuis des générations, appelle vertu la reconnaissance d'un modèle intrinsèque de perfection. Et on reconnaît le sage au fait qu'il se soumet entièrement à cette perfection, en la faisant passer avant ses intérêts. La perfection signifie non seulement que quelque chose est fait, mais est plus que bien fait en étant fait de part en part, c'est-à-dire en étant fait de telle façon que cela nous emmène au-delà. C'est le sens du terme « dialogue » si mal compris. Dialogue veut dire que, à l'occasion d'un logos que l'on partage avec un autre, on va de part en part en allant au-delà. La perfection nous emmène vers les hauteurs. La perfection nous emmène vers le plan supérieur de l'existence. La perfection nous élève et élève tout le monde autour de soi, en permettant à l'être humain de se redresser et ainsi de devenir l'être de culture qui se tient droit, ferme, debout, avec tenue, droiture, style, élégance. La perfection aujourd'hui dans notre monde doit passer par une mise au point. J'entends trop souvent dire que la perfection est ennuyeuse et qu'à l'inverse, l'imperfection est humaine et réjouissante car elle nous distrait en nous sortant de la pesanteur dans laquelle nous enferme la perfection. Eh bien, si vous voulez faire un éloge de l'imperfection, sans moi. Je suis stupéfait de voir de tels éloges se développer. Je suis stupéfait pourquoi ? Parce que c'est une attitude d'enfant gâté. On aime profiter de la perfection, mais pouvoir quand même se payer le luxe de cracher sur elle. Qui peut vivre dans l'imperfection ? L'imperfection est une calamité. On s'insurge, à juste titre, contre un mécanicien dans un garage qui laisse partir une voiture sans avoir bien vissé les écrous des essieux. On s'insurge quand un médicament mal fait entraîne des maladies. On s'insurge devant tout ce qui est négligé, sale, grossier, imparfait. Quand on veut apprendre quelque chose, on n'apprend pas avec ce qui rate, on apprend avec ce qui réussit. On n'apprend pas la cuisine avec un cuisinier qui rate toutes ses sauces. On n'apprend pas la musique avec un musicien raté. On n'apprend pas la peinture avec un peintre raté. On n'apprend pas la philosophie avec un philosophe ignare. On n'apprend rien dans l'imperfection. On apprend tout dans l'excellence. Comment peut-on se prévaloir d'être un être de raison intelligent et faire l'éloge de l'imperfection? L'autre jour, je discutais avec une responsable qui me faisait l'éloge de l'imperfection en trouvant la perfection ennuyeuse. Dans le service qu'elle dirige, tolère-t-elle l'imperfection? Tolère-t-elle des collaborateurs, des collaboratrices qui arrivent en retard, font mal leur travail, négligent les responsabilités qui leur ont été confiées? Personne ne peut vivre dans l'imperfection. J'adore la perfection et la perfection ne m'ennuie pas. Je ne trouve pas que les poèmes de Baudelaire sont ennuyeux. Je ne trouve pas que les tableaux de Vermeer sont ennuyeux. Je ne trouve pas que la musique de Mozart est ennuyeuse. Je ne trouve pas que tous ceux, toutes celles qui dans notre pays se donnent un mal fou pour que toutes les choses marchent et marchent au mieux dans l'intérêt du bien commun. Je ne trouve pas du tout ça ennuyeux. Je trouve ça remarquable et je regrette qu'on n'ait pas assez de gratitude devant tous ceux qui se donnent du mal. Je remarque que dans nos églises, un certain nombre de prêtres se donnent corps et âme pour la bonne marche de l'Église et se dévouent dans l'abnégation, la modestie et le dévouement total envers les autres. Ils sont, dans notre monde, une image de perfection. Je pense à tous ces moines, toutes ces moniales qui vivent dans la prière et la pauvreté et qui nous accueillent toujours merveilleusement dans leur monastère. Et quand j'ai la chance et l'honneur de pouvoir y aller, je suis toujours émerveillé par la propreté, la tenue, la perfection avec laquelle tout est tenu. J'aime la perfection. La perfection ne m'ennuie pas, comme le modèle ne m'ennuie pas, comme la vérité ne m'ennuie pas, comme l'éternité ne m'ennuie pas. Elles ne m'ont jamais ennuyé, elles ne m'ennuieront jamais. Parce que la perfection me donne énergie, inspiration, gratitude, amour de la vie, amour de mes frères, amour du ciel et de sa bénédiction à travers la perfection. C'était le groupe Divna, chœur de la cathédrale de Belgrade. Chers amis, c'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui mon ami le Père Philippe Dautet, qui anime une magnifique communauté d'études et de prières qui se trouve à Sainte-Croix en Dordogne et dont il va nous parler. Cher Père Philippe, qu'est-ce que c'est que Sainte-Croix et quelle est l'histoire de Sainte-Croix? Comment est-ce que Sainte-Croix est née?
Oui, bonjour Bertrand, et très heureux de vous parler donc de la naissance de Sainte-Croix. Sainte-Croix a été édifiée après la rencontre avec Annick de Sozonel en 1979, et ensuite nous avons fondé Sainte-Croix en 1983. Donc ça fait 41 ans maintenant, sur une double idée. Premièrement, on voulait vivre une vie semi-monastique, donc avec des personnes qui étaient en famille, en couple, avec des enfants, mais qui désiraient plus qu'une vie paroissiale et voulaient vivre une vie au quotidien spirituelle, avec une dynamique de rencontre et donc d'échanges et d'études les uns avec les autres, et le fait d'avoir de l'accueil pour accueillir des retraites, des sessions, des séminaires. On a organisé aussi des colloques. Donc il y avait le fait au lieu d'aller écouter des conférenciers ou des intervenants à gauche et à droite, de les faire venir sur place selon effectivement un choix, selon une orientation, pour faire valoir d'abord toute la richesse de la tradition chrétienne enracinée dans les origines.
Et révélée
au début par Annick de Sozonel. Donc on a rencontré Annick de Sozonel en 1979, et puis on a commencé à œuvrer avec elle en 1980, et ensuite elle nous a présenté un prêtre de l'Église orthodoxe qui nous a parlé des Pères du désert. Et personnellement,
qui était ce prêtre?
C'était le père Jean-Marie Vasté.
Oui.
Voilà. Et immédiatement, ça c'était en août 1981, et en novembre 1981, j'étais en Égypte, entre le Caire et Alexandrie, dans le Wadi Natroun, où là, c'était pour moi une révélation totale. J'avais baigné dans mon enfance dans le catholicisme, mais j'avais vécu une tension, une souffrance même, entre ce que me proposait l'institution catholique à l'époque, je dis bien à l'époque, aujourd'hui ça serait plus comme ça, les choses ont beaucoup évolué, mais à l'époque, et puis ce que j'avais vécu dans des expériences intimes, notamment à l'âge de 4 ans et 8 ans, où j'ai eu des expériences très fortes qui ont été fondatrices pour moi et qui sont toujours le moteur de ma vie. Et donc, il y avait un décalage entre, effectivement, ce que j'avais vécu et des prêtres ou des moines qui, à l'époque, n'ont pas su m'éclairer sur le sens profond de mon expérience intérieure.
Ne transposait pas à l'extérieur la flamme qu'il y avait à l'intérieur.
Exactement. Et donc, pour moi, ça a été ça, tout le temps, ma quête intérieure, c'est-à-dire que j'avais un enracinement dans des expériences intérieures.
Et donc, très jeune, dès
l'âge
de 8 ans.
4 ans et 8 ans. 4 ans et 8 ans, j'ai des expériences très précises. Quand, à 4 ans, je sors de l'école, et là, il y a les nuages qui s'écartent, la lumière qui passe, et j'ai le sentiment d'un infini, d'un au-delà, de quelque chose qui ne peut pas se résumer à la réalité matérielle, à la réalité immédiate.
Magnifique.
Et qu'il y a une évidence de l'infini et l'évidence d'une dimension céleste qui pour moi surgit et qui fait que ce que je vois là dans l'immédiateté, dans la réalité immédiate, n'est qu'une apparence, n'est que ce qu'on peut toucher de la vraie réalité. Et donc pour moi c'était la quête du réel, profond,
le réel,
au-delà
réel
des apparences, au-delà du visible, au-delà du palpable, au-delà de l'immédiateté, de ce qu'on peut percevoir immédiatement. Voilà. Et puis après 8 ans, j'ai eu une autre expérience un peu similaire,
du même
type. Voilà. Et donc pour moi, il y avait le fait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas dans la réception d'abord, et puis l'intégration de cette dimension profonde qui n'est pas résumable à la réalité qu'on vit dans le quotidien.
C'est ce que j'appelle le fait inouï de l'existence.
Exactement.
Et quand on parle de Dieu, ben je dis, écoutez, Dieu est lié au fait inouï de l'existence, et
c'est
le fait inouï d'existence est à la fois un émerveillement et une joie.
Exactement. Émerveillement et joie. Et donc, pour moi, c'est ça la dimension fondatrice de tout mon chemin spirituel. Et voilà, je n'ai pas trouvé d'écho. Bon, c'est comme ça. Et puis, envoyé au désert par ce prêtre orthodoxe.
Annick de Souzenel d'abord.
Annick de Souzenel et ce prêtre.
Et avant, parce que vous avez fait partie de l'ECOF, et est-ce que vous aviez eu l'enseignement du père Kowalewski? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez touché?
Non, parce que c'était très rapide. C'est-à-dire, nous avons rencontré donc Annick de Souzenel en 1979.
Par une
conférence à Bordeaux.
D'accord.
Voilà. Ensuite, nous avons commencé à travailler avec elle en 80. Mm-hmm. Là, on rencontre effectivement des prêtres orthodoxes qui viennent célébrer la Divine Liturgie. Puis ensuite, en 1981, on confesse la foi orthodoxe. Très bien. Et novembre 81, je suis chez les Pères du Désert. Donc pour moi, c'était ça d'abord, avant d'appréhender autre chose. Et là-bas, j'arrive au monastère Saint-Macaire, dans le Bois d'Inatroul. Le monastère Saint-Macaire a été restauré à partir de 1969 par le père Mathaël Mesquine, qui a été sollicité par le patriarche Cyril VI, du patriarche copte. Et là-bas, j'arrive, c'est la Divine Liturgie, qui est dansé parce que
l'immersion c'est totale l'immersion dans la vie divine.
Voilà, exactement. Et on sort de la Divine Liturgie et les moines jouent à chat perché. On pourrait dire
avec les enfants.
Avec les enfants.
Il y avait les familles, les enfants.
Voilà, là-bas, il y avait les familles, les enfants.
La danse des prêtres dans le sanctuaire.
La danse des prêtres dans le sanctuaire. Oui. Donc une dynamique là comme ça. Oui. Et on pourrait penser que ces hommes sont un peu simplistes. Non, c'est pas simpliste parce que Père Mathaël Mesquine n'acceptait dans son monastère que des personnes qui avaient fini leurs études universitaires ou qui avaient au moins 3 ans de vie professionnelle parce qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne se réfugier au monastère.
Et
donc, les moines qui jouaient à chat perché étaient architectes, ils étaient médecins, ils étaient pharmaciens, donc c'était pas des gens, voilà, c'était des gens qui étaient là. L'esprit de la simplicité, profondément équilibré, dans un esprit de simplicité qui jouait avec les enfants, mais qui était aussi intellectuellement très bien nourri. Donc voilà, et après, ça a été tout un dialogue, puisque c'est une tradition orale, tout un dialogue, et pour moi, ça a été un fondement extraordinaire. J'en ai fait le fondement de toute une démarche et de toute une proposition, parce que là, j'ai trouvé ce qui correspondait à ma résonance profonde et à mon expérience profonde, et c'est à partir de là qu'on a développé toute une série de sessions à Sainte-Croix.
Alors, dont nous reparlerons.
Dont nous reparlerons un peu plus tard.
La fois prochaine.
Voilà, mais ça, c'est l'expérience fondatrice.
Voilà. 4 ans, 8 ans, Annick de Souzenel, Wadi Natroun. Merci, voilà. Cher Père Philippe. Très belle entrée en matière. Merci. Et après cet entretien, je vous propose toujours le groupe serbe liturgique Divna. Durant le mois de juillet et le mois d'août, j'ai consacré les émissions de Lumière de l'Orthodoxie à la lecture de quelques pages de l'œuvre magistrale d'Olivier Clément. Voici, pour terminer ce cycle, ce qu'il dit dans « Questions sur l'homme à propos de la pensée ». Pour Grégoire de Nice, la matière est la concrétion de pensées perceptibles par l'esprit et non par les sens. Les structures créées sont le lieu de rencontre entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine. Quand elle découvre les structures prodigieusement complexes qui font l'univers, la science parvient à des conclusions analogues. Il existe des états de la matière qui sont des états de contemplation. La transparence de l'univers est donc inséparable de la transparence de l'homme. Magnifique page qui met en relation la plus haute pensée théologique avec l'intelligence qui préside à la formation du monde. Il s'agit de la même chose. La réalité qui est vie est réflexion de la vie sur la vie qui permet à la vie d'être la vie. C'est ce qui fait que la vie et la pensée sont inséparables. Et ceci se trouve dans les profondeurs de l'univers où nous apercevons que la réalité comme réalité de la réalité à travers la vie qui embrasse tout est présente de la matière jusqu'à Dieu et de Dieu jusque dans les profondeurs de la matière. Et pour terminer, à nouveau le groupe Divna.